Salut mes chers passionnés de musique, bienvenue à la paire d'écouteurs, épisode 9, de retour à la saison régulière. On a eu une belle rentrée, là, deux semaines.
Oui.
On essaie d'être steady, là, peut-être pour jusqu'à Noël. Et puis, belle nouvelle pour moi, j'ai commencé à faire mes chroniques à CIBL depuis mardi passé, donc merci. On a un petit lien aussi avec nos invités de ce soir, vous allez voir tantôt, parce que vous avez commencé aussi à CIBL il n'y a pas si longtemps. Donc, il y a quelque chose qui est le fun, il y a quelque chose qui se regroupe pour les passionnés de musique. Donc, ma chronique est aux deux semaines au show Le Retour, animé par Marie-Gabrielle Ménard. Salut, réalisé par Pat Coron. Salut Pat aussi, merci beaucoup de l'opportunité.
Pat quoi?
Alors, tu l'as peut-être deviné, tu sais qui. Donc, on y va tout de suite avec notre show. Qu'est-ce que c'est, la paire d'écouteurs? C'est quatre segments, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, l'état critique, l'oreille chronique, et le côté B et le 45 tours.
Exact.
Et nos invités aussi, on a un beau duo cette semaine.
Ah oui.
Donc, on va y aller tout de suite avec l'état critique. Ah, ben en fait, salut. Mon cher Adi Clacron.
Ouais, salut, j'ai retrouvé de battu.
L'état critique, qu'est-ce que
c'est? Ma santé va bien.
Vas-y, l'état critique, c'est quoi?
L'état critique, c'est un album qui vient de sortir, qui est tout chaud.
Ouais, tout qui chaud, est tout chaud. Et puis là, c'est vraiment tout chaud, parce que là, on enregistre, on est le 15, et puis ça s'est fait aujourd'hui.
Exact.
On l'a écouté ce matin.
Oui.
L'album Prophets of Rage, album éponyme. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est, Prophets of Rage? C'est ce band. Ce super groupe, on appelle ça des super groupes. Et puis, avec Chuck D, Public Enemy, Be Real, The Cypress Hill, Tom Morello, et le reste, sauf Zach. Et puis, Zach Larocque, il n'est pas là. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a, il y a du goût, je sais pas.
Ils sont chicanés, ça fait longtemps, puis ils n'ont jamais réglé ça. Il a dit qu'ils ont demandé, il a décliné l'offre et ils ont dit que Be Real et Chuck D pouvaient le faire. T'sais, il a donné la permission, on pourrait dire.
Ouais. Fait par politesse, peut-être?
Non, je sais pas, mais t'sais, j'ai pas besoin de te mentionner que je suis fan de Public Enemy et de Cypress Hill.
Ben oui.
Ben oui, hein, j'ai mis mon beau chandail. C'est encore des paroles revendicatrices, comme ce que Public Enemy faisait, que Rage faisait. Par contre, j'étais comme excité quand ça a sorti, mais le premier EP, c'était comme des reprises de Cypress, des reprises de Public Enemy, le EP, là.
Ouais.
Puis des reprises de Rage Against the Machine. Là, c'est comme un... Je sais pas comment... Moi, je pourrais dire, je suis pas si excité que ça, finalement. La fusion ne fonctionne pas totalement.
Moi, il y a deux fusions. Oh, bof, je suis pas super d'accord. Il y a deux fusions que moi, j'ai tout le temps de la difficulté. C'est ce fameux mix rock et rap. Funk, live et rap, live, ça fit au maximum.
Mm-hmm.
Rock heavy, là, mettons, là, tu sais. Et je trouve que ça pousse les MC à avoir des flows plates.
Exact.
C'est weird. Exact. Parce que là, on a Be Real, Chuck D, c'est comme deux mics.
Deux minutes.
Puis ces deux mics-là sont comme confinés dans une espèce de... On parlait de BPM tantôt avant le show. Ben ça devient un BPM qui est constamment pareil. Ça j'en reviens pas.
Ouais.
Mais la deuxième moitié du disque, on pourrait dire que ça change un petit peu. Mais les trois, quatre premières tunes, je te dis, c'est quand même assez belge. Mais je pense que c'est un phénomène de super groupe. Y'a-tu...
Un
super groupe, c'est bizarre là, parce que les super groupes, on appelle ça super groupe parce que on invite des icônes. C'est des icônes qui arrivent là, des gens qui ont révolutionné la musique la plupart du temps, se retrouvent là-dedans puis font quelque chose d'ultra simple, continuent au pire vos carrières respectives. Si vous connaissez un super groupe qui vaut la peine, qui dépasse l'entendement ou qui dépasse les projets respectifs.
Mm-hmm.
Je veux savoir c'est quoi, parce que là, dites-moi c'est quoi les noms.
Ben, tu vois, l'ère de Trump fait qu'ils sont comme revenus aussi pour la revendiquer. Mais il va y avoir beaucoup de travail à faire de marketing. Tu sais, dans le temps, la vidéo Fight the Power de Public Enemy, ça avait fait bouger des trucs. Là, je pense que les jeunes sont. Je pense qu'ils ont passé à autre chose. Ben, il faudrait qu'ils se fassent réveiller, mais il faudrait qu'il y ait vraiment beaucoup de promos. Pour partir un genre de mouvement avec le Ben où c'est comme ça va passer dans le bar.
Ou arrêter d'aller chercher musicalement les nostalgiques des années 90. Essayer quand même de nouvelles choses. Je veux dire, Tom Morello qui avait donc été. Qui est respecté pour son jeu de guitare innovateur. Je veux dire, là, on les connaît ses patterns de son.
Puis DJ Lord de Public Enemy, puis il est inexistant.
Qui ça qui est là?
DJ Lord de Public Enemy.
Il est là-dessus?
Il est là-dessus, je pense qu'il fait un scratch.
Non, mais c'est vrai.
Il arrête le disque à la fin.
C'est ça.
En show par exemple, il doit être plus présent, c'est sûr, là, mais sur l'album, je pense qu'il y a une tune qui fait du scratch.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, un des meilleurs mix, ou sinon, moi, selon quand je parlais de la difficulté entre le rock rap, là, je trouve, moi, un de mes meilleurs, c'est en 94. Onyx, Biohazard, Platoon Slam.
Ben, toute la Judgment Night, la bande de Judgment Night, c'est le
plus réussi. Ouais, non, ben, t'as pas tout réussi sur Judgment Night. Dave n'est plus là, donc on sait plus si on doit partir à l'autre segment.
On enchaîne.
Il est pas là, donc on enchaîne. On va y aller maintenant avec l'oreille chronique, et puis l'oreille chronique. On reçoit nos invités et puis ils viennent nous parler d'albums qui leur tient à cœur. Mm-hmm. Et puis cette semaine, hein, ils sont juste sur le corner, checker le jeu de mots, ils sont juste ici sur le coin. On a de véritables artisans de la scène montréalaise et pop depuis des années, ça n'a pas de sens. Alors on accueille deux gars de sur le corner, DJ Org, Félix, Éric Brousseau, Seba de Grosso Modo, salut du monde!
Yeah.
Alors, roulement de tambour, est-ce que c'est une surprise? En même temps, moi, quand j'ai dit ça, j'ai fait « Yeah », ils vont m'en parler. On parle de quel album?
Grosso modo.
Il a tellement existé mon disque, il est comme tout en morceaux, c'est la haine, le film autant que la bande sonore, qui a probablement starté beaucoup de carrières de MC au Québec, a probablement starté... pas mal, c'est ça, le rap francophone à Montréal.
Ben, de l'époque, là.
Ouais, de l'époque. Il y avait un petit peu MC Solar avant.
Ouais.
Mais ça nous a donné vraiment le goût d'être MC. Parce que, tu sais, MC Solar, c'était quand même, tu sais, de la poésie. Les jeunes qui écrivent, des fois, sont pas nécessairement comme super poètes. Tandis que ça, tu sais, il y avait des textes un peu plus crus, plus réalité. Ça a peut-être donné, justement, plus le goût à des gens de vraiment devenir des MC.
Ouais, mais aussi, tu sais, la particularité, c'est que quand t'avais vu le film puis t'écoutais les tunes, tu sais, ça le racontait le film.
Ouais.
Puis, tu sais, mettons, comme dans ce temps-là, au Québec, on connaissait pas trop ce qui se passait en France. On savait un peu. Moi, j'avais été en Europe un peu avant, puis j'avais flairé ça, mais dans un certain sens, de voir le film, là, c'est comme, tu sais, un film, ça raconte une histoire, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, après ça, de l'entendre dans leurs mots, leur verlan, ça a comme démystifié, j'irais même jusqu'à dire... ça m'a aidé à écrire du rap parce que dans une certaine mesure, je savais de quoi il parlait, je voyais comment il l'avait transformé. Mm-hmm. Parce que sinon, tu sais, je parlais pas super bien anglais. Puis comme il dit, MC Solar, on savait pas trop si c'était-tu vrai, c'était-tu...
C'est jazzy,
puis tu sais, je veux dire, c'est comme, on sait pas, tu sais, il nous offre son monde que dans une toune, tu sais, il est hardcore, puis dans l'autre, il bouge de là, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'était plus concis, en tout cas. Mais ça m'a beaucoup
C'était plus street aussi, là. MC Solar était déjà comme un petit peu. C'était un petit
rap. Il disait que c'était le nouveau Gainsbourg.
À cause que c'est un
Ce qui était le fun aussi pour les jeunes, c'est que moi j'aimais ça. Je me souviens, quand j'allais voir le film, il y avait des cartes postales à l'entrée avec la photo de chacun des trois personnages. Puis de l'autre côté, t'avais. Parlez-vous aussi le langage du film, fait que t'avais tout ce que ça voulait dire, les trucs en verlan.
Fait
que moi, moi, je les ai gardés parce que j'étais un collectionneur de posters et de flyers. Mm-hmm. Puis c'est ça, là, on comprenait enfin ce qu'il disait, ça nous était expliqué. Fait que c'est ça, ça l'aidait
à comprendre. Puis aussi, c'est un Christ de bon film, point de vue cinématographique.
Deuxième film de Mathieu Kassovitz dans sa carrière, je pense. Ouais, parce qu'il avait tourné Métis une couple d'années avant.
Ouais, puis tu sais aussi, Vincent Cassel, c'est probablement un de ses meilleurs rôles, à mon sens.
C'est son premier.
Je vois tout le temps le gars de la haine qui joue dans d'autres films.
Exactement. Même dans Black Swan, où est-ce qu'il il réussit à faire oublier Vince, mais c'est ça. Mais par contre, je sais pas si vous savez, mais j'ai vu ça sur Internet, on voit tous Internet. Il y a un an, c'était le personnage, c'est Vincent Cassel qui sort de prison
Oui, attends,
c'est comme, ils disent que c'est la suite de la haine. Lui, il aurait fait, admettons, 15 ans de prison pour violence, puis là, il vient, puis il va dans des meetings, il serait de retour. Mais moi, je suis pas d'accord avec ce film-là, parce que tu peux pas le faire revenir, ce personnage-là.
En fait, on sait même pas si c'est lui. Tu sais, à la fin, on entend un coup de gun, puis... Tu sais, ça laisse, c'est comme si tu lui qui est mort, c'est la police, comme c'est pas clair.
Mais ce film-là est important parce que moi je suis parfaitement d'accord avec vous autres. C'est avec ce film-là que ça m'a initié en même, au hip-hop français. En même temps, c'est quelle année ça?
95.
Fait qu'en même temps, t'as l'école du micro d'argent qui arrive dans notre face de plein fouet.
L'année d'après.
Mais il y a quand même aussi le film de Jean-François Richet qui est Ma cité va craquer, qui est un assez bon soundtrack aussi.
Mais le film est vraiment rien à voir.
C'est ça m'attend.
C'était comme ça d'être un navet. Honnêtement,
c'est à cause que le soundtrack était bon que j'avais aimé ça.
Non, mais le soundtrack est écœurant. Il est comparable à ça, mais le film en tant que tel, c'est un peu comme... C'est pas la qualité cinématographique.
C'est bizarre, mais il y a comme un émeute, puis là, t'as un rapper qui apparaît devant l'écran, puis qui rappe une toune dans le film.
Ça, c'est
dans
la cité, tu parles.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment bizarre.
T'aurais pas vu ça.
Non,
mais il ouvrait le film, Ma cité va craquer, avec une jeune
déchirée. Êtes-vous allé voir la projection de Ma cité va craquer qui avait eu lieu à l'Impérial en 97 ou 98? Man, j'ai jamais fumé autant de joints dans un cinéma. Mais ça commence.
3 minutes!
Ouais, c'est bon,
parce
que là, on parlera pas trop de ça.
Ah, non,
mais oui, c'est pas grave. Ça.
Non, mais ça a commencé 1, 2, puis là, tout le monde a fait ah, oh, ouais, shit!
Pas
le dépoigné.
Puis on voyait plus l'écran.
C'était un beau moment.
Mathieu Kassovitz, là, juste pour le fun, là, de même, parce que c'est intéressé beaucoup. Ses premiers films étaient intéressants. Ça, c'était dans le cœur. Dans ces ghettos, machin. Ouais. Mais je sais pas si vous avez vu, je sais que ça n'a aucun rapport avec la musique, puisque je fais juste une petite aparté, mais le film Assassin.
On connaît le groupe.
Ouais, non, mais ça n'a pas rapport avec le
groupe. Non, j'ai pas nécessairement. J'avais vu Doberman dans le temps, là.
C'est pas Mathieu, ça. C'est Vincent Cassel qui était dedans.
C'était pas très bon.
Mais j'ai mélangé tout dans ça.
Anyway, c'est pas critique.
Ouais. Mais moi j'étais beaucoup américanisé, tu sais. Fait que moi j'ai plus écouté Boys in the Hood. Puis Menace to Society. Puis New Jack City, qui était le dernier film québécois. Traduit en québécois avec des sacs.
J'ai acheté le VHS.
Tu ouvriras quand tu sauras parler.
Non, Monet, essaie-tu de faire du cash en dehors de la famille?
Mais non, voyons, tout ce que j'ai fait, c'est une petite expérience, tu veux dire?
Oh, une petite expérience, tu veux dire? Ça veut dire quoi?
OK, au club hier soir, il y en avait quelques-uns derrière à la table du Blackjack qui voulaient s'acheter, puis ça pressait un 50 ou un 100 piastres de sniff. Je les fais venir dans le backroom, je leur donne de la base, puis là, ça faisait pas 15 minutes qu'ils étaient sortis du club, ils sont revenus avec deux ou trois autres clients.
Et après?
En fait, oui. Ça change toute la dynamique du film.
Ouais, mais c'est plus
true. Tu passes d'un drame.
Non, t'as raison.
C'est plus true parce qu'ils sont allés s'installer là, tu sais, comme plusieurs mois avant le tournage du film. Les trois comédiens, puis même Mathieu Kassovitz, ils ont loué un appartement là-bas, ils ont habité là ensemble, il y avait des matelas à terre, il n'y avait rien, ils vivaient vraiment comme des pauvres. Puis ils se sont vraiment intégrés tranquillement aux gens, se sont fait aimer par eux. Puis c'est pour ça qu'ils ont pu tourner le film sans problème, parce que tu peux pas arriver dans une cité puis commencer à tourner un film de merde, tu vas te faire tuer. Puis il y a du monde qui avait essayé de le faire avant, ils le disent dans les extras, ça marche pas mal. Eux, sont allés vivre là, puis tranquillement, ils ont commencé à tourner, ils ont intégré les gens, ils sont allés par en dessous, sinon il n'y aurait jamais pu. Fait que la réalité qui est décrite là, c'est vraiment une réalité. Ils ont écrit le scénario un peu en écoutant les affaires, puis il y a beaucoup de pistes où est-ce qu'ils sont pas allés, mais qui n'auraient pas allé, tu sais, c'est... Ils ont vraiment écrit ce qui se passait dans la cité à ce moment-là.
Aussi, c'est un film qui, tu sais, mettons, pour le monde des cités, c'est comme ça
représente...
Ouais, tu sais, ça les fait pas mal paraître, donc ça les respecte dans un certain
sens. Il n'y a jamais personne après qui a fait comme « Ah, ben non, finalement, c'est pas ça la réalité. » Des fois, mettons, tu vas faire de quoi, tu sais, sur une réalité, mettons... Un truc en particulier, c'était ça. Il n'y a personne d'incité qui a fait « Ah
oh non, c'est pas ça, vous nous décrivez mal. » C'est tellement ça. Les années de 2005, des émeutes, toutes les banlieues ont brûlé. Ben 2008, même affaire. Je veux dire, c'était à la rigueur quasiment prémonitoire. Ils annonçaient ce qui s'en va.
Puis pas nécessairement prémonitoire, mais propulsant aussi pour des groupes comme Assassin qui se sont rendus jusqu'ici à nos oreilles aussi.
Ben tout à part Ayam, qu'on connaissait un peu,
Ayam, ça a poigné ici.
Moi, Sens Unique, j'ai écouté l'album après, mais j'ai découvert ça par là. Mais il y a aussi ce qui a uni à quelque part, c'est nous deux, Org et Seba, nous on s'est rencontrés.
en 95, mais comme au cégep du vieux.
Une semaine ou deux, après la sortie du film.
C'est comme on s'est quasiment connu de même, c'était genre, tu sais, ouais, t'écoutes-tu du hip-hop, ouais, genre, tu tags-tu, ouais, t'as-tu eu la haine, ouais, oh shit, tu sais, on était comme déjà amis, tu sais.
C'est ça qui nous a vraiment unis. Puis aussi dans la haine, à un moment donné, tu sais, au début, t'as Saïd qui fait un tag, Saïd nique la police. Moi, quand j'ai vu ça, je fais, oh shit, je veux faire des tags. Puis je suis retourné voir le film une semaine après, puis je m'étais acheté un marker, j'ai tagué, je taguais Andy, là, dans ta hand, j'ai tagué. Tu sais, le banc en avant de moi, la deuxième fois que j'ai vu le film, tu sais, ça a vraiment comme changé ma vie. Je me disais, je vais me mettre à faire du rap.
T'avais tagué un métro, un wagon métro, hein? Tu dois même plus t'en souvenir.
Moi, je...
Non, mais moi, je m'en souviens parce que quand il a dit, j'ai dit, tu tagues quoi? Il dit Andy. J'étais comme, oh shit, t'as fait un wagon, tu sais, comme, t'as fait un wagon métro en silver.
Les gars, c'est super intéressant. La haine, c'est un film à voir. C'est un soundtrack à écouter aussi pour s'initier à la bonne époque, le golden age du hip-hop français. Pas francophone, français. Les gars, on va se parler tantôt pour l'entrevue. Alors, merci les gars d'être passés. Nous, on va déjà poursuivre avec la prochaine chronique qui est le côté B. Qu'est-ce que c'est que le côté B? C'est ce segment où on prend un album qui a été super populaire, connu, etc., commercial, qui a eu un succès commercial.
Mais oui.
Et puis qui a généré les singles. Et puis nous, on s'amuse à trouver quel serait le côté B. Là, tu vois, Eric qui essaie de passer en dessous de la caméra. Et puis, ben c'est ça. Fait que nous, cette semaine, on parle d'un groupe assez connu, quand même, qui a été connu, du moins, qui s'appelle Talking Heads, qui a été très connu. Est-ce qu'on les connaît maintenant aujourd'hui? On ne sait. Il n'y a plus grand monde qui en parle. Mais pourtant, ça a été un band très, très important. L'album Speaking in Tongues, qui est sorti en quelle année?
83.
En 83. C'est un groupe new-yorkais qui était considéré... post-punk, new wave, etc.
Funk,
world aussi.
C'est un des préférés, les Talking Heads.
Ah ouais, c'est vraiment cool.
Alors un million d'albums en duo aux États-Unis.
Ouais.
Les membres, c'est David Byrne, que pas mal beaucoup de monde connaît dans la musique. Là. Il est réalisateur aussi, il est acteur. Jerry Harrison au clavier, Tina Weymouth au synthétiseur à la basse, c'est Chris Friends. Et les singles qu'il y a eu, c'est Burning Down the House.
Ben oui.
Et This Must Be the Place.
Exactement. This Must Be the Place, je la connaissais pas, mais Burning Down the House, là. On parle de film tantôt, je fais un petit lien. Cinéma, musique. Moi, j'ai connu Talking Heads avec. On trahit notre âge, hein, mais depuis tantôt, on le trahit. I don't give a fuck. C'est Burning Down the House en écoutant Reboot. Si le monde se promène aujourd'hui, c'est incroyable. Avec Revenge of the Nerds, le film Revenge of the Nerds. Tu sais, à un moment donné, là, il y a la fraternité des Alpha Beta qui se font un house party.
Oui.
Puis il y a comme un espèce de gros crétin, man, ils crachent un rideau puis ils brûlent leur propre maison. Là, point, puis c'est la toune part, j'ai fait, what the fuck, man. Moi, là, quand je louais des VHS, là, la seule fois que je reculais mes VHS, c'était pour voir les scènes où il y avait des totons.
Ouais.
Mais là, je vous jure que je vais reculer non-stop. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, ou avec Roger Rabbit ou whatever, que j'ai appris à trafiquer mon VHS pour me faire des tapes pour avoir la toune de Burning Down the House.
Okay.
Jusqu'à temps que j'allume la radio puis que je m'aperçois qu'elle jouait.
Mais la vidéo m'a marqué, c'est des enfants qui chantaient à leur place.
Je me souviens plus du vidéo.
Avec la voix de David Byrne, ça fitait pas, mais c'était comme rigueusement épeurant.
Non, ça c'est The Cure.
Non. Ben, il y a eu ça aussi, il y a eu lequel que tu parles.
Ça me tente de le faire montage, je le mettrai, c'est quoi le
vrai. Puis c'est ça, que la surprise que j'ai constatée, moi, parce que j'avais aimé Burning Down the House, j'avais 8 ans, genre, quand ça jouait, j'avais jamais écouté là-bas. Il est funk, ça, Bill.
Mais c'est pas le plus funk.
Ben, en tout cas,
quand tu dis c'est le world, là, est-ce que le titre t'a bien à l'esprit? Il y a Mr. Whatever, lui, il est plus world funk, vraiment plus intéressant. Je trouve que Talking Heads, c'est un groupe qui, regarde, il faut quand même le dire, là, parce que James Murphy, de LCD Sound System, a sorti un très bon disque cette semaine. En tout cas, qui s'appelle American Dream. Et puis ce gars-là, là, je vous fais des exercices à faire. Là. Allez, on n'est pas sur l'album Speaking in Tongues, mais allez chercher la tune Once in a Lifetime de Talking Heads, et puis écoutez n'importe quelle tune random de James Murphy, LCD Sound System. C'est du Talking Heads. C'est parce que je trouve que ce band-là a beaucoup de filler. Ça dépend des disques, mais vu que c'était du art rock quasiment, ça explore, ça se permet des bébelles. Fait que à cette époque-là, c'était pas si clever qu'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'erreurs, mais si mettons on faisait une compile complète, juste les bons hits de Talking Heads, on comprendrait pourquoi il y a autant de monde qui est influencé par eux autres. Alors, moi, j'ai choisi Pull Up the Roots.
Ouais,
toi aussi? Yes! Parce qu'encore une fois, ben, les fameuses cloches à vache, là.
Oui.
Ça, ça a été un des canevas de James Murphy aussi.
Le son de guitare syncopée, de style son
système. Et voilà.
Et Pharrell, j'ai écouté, là. Les tonnes de Pharrell Williams. Je sais pas si c'est inspiré, mais. Mais moi, j'ai coué.
D'accord. On va y aller maintenant avec le dernier segment qui est le 45 tours. Le 45 tours, si on passe des albums en rafale, c'est plus vraiment en rafale. Mais on essaie, c'est à ce moment-là que moi j'essaie de parler plus vite pour rattraper le temps qu'on a pris pour le show. Alors, c'est des albums qu'on écoute une fois ou deux, hein, sans plus, et on fait juste thumbs up ou thumbs down, ça vaut la peine de réécouter ou pas. Et puis là, je viens de m'apercevoir pendant que je parle, qu'on n'a pas fait d'ordre.
C'est pas grave, je vais suivre tes
feuilles.
Dis-moi, c'est quoi.
Ok, alors, ben, ok. On va y aller d'abord avec Dub It. L'album Vitriol. Oui. Qu'est-ce que c'est, Dub It? C'est un artiste électronique expérimental, artiste visuel aussi. Il fait toutes sortes de la sculpture, des trucs de lumière. C'est un Italien. Mm-hmm. Il s'appelle Pierre Alfeo. Mm-hmm. Puis, moi, je connaissais pas. Fait que je paye sur Play, parce qu'on essaie des fois les affaires ici. Ouais. Et puis là, la première toune commence, si on peut appeler ça une toune, parce que c'est de l'ambiance noire,
le néant
industriel.
Le vide.
Et puis là, moi, vous savez, hein, j'habitais un petit peu chez Simon, fait que je sais comment qu'il travaille sur son show, c'est-à-dire en pyjama, une main sa graine, puis l'autre d'un bol de chips.
C'est plus des cartes de framage.
Là, je l'ai imaginé peser ce play là-dessus, puis j'ai dit, t'as dû manquer de souffle, toi.
J'ai manqué.
T'as dû paniquer.
Non, j'ai pas paniqué, mais il y a rien que 500 CD, hein, en plus, qui est fait.
Ah ouais?
C'est une édition limitée, fait que j'étais comme dans l'espace demain. Là, je l'ai pogné de même, mais il y a un monstre de l'espace qui venait me voler. Puis, non, mais j'ai dit oui pour le travail, OK? Le travail du gars.
Okay.
Mais c'est 1 heure et quart de perdu dans l'espace.
Mais il y a du field recording c'est, dedans.
Faut peut-être du temps, un autre album, faut peut-être du temps pour l'écouter.
Moi, j'ai trouvé que ce disque-là, c'était la preuve que mes meds faisaient effet parce que j'ai pas bad trippé en l'écoutant. C'est un beau croisement entre Merzbow et William Basinski. Pour ceux qui aiment l'ambiance puis tout ça, c'est effectivement. C'est long. Hey, si l'accro dit que c'est bien fait.
Bon, non, il travaille bien, le gars, mais il l'a bien fait, mais c'est long. C'est,
on va y aller maintenant avec Donald. Ben, moi, c'est oui aussi.
Ouais,
toi, hein? C'est oui.
Ben, pour le travail du musicien, là. Travail. OK.
On va y aller maintenant.
Je réécouterai pas.
Hey! Je le sais. On va y aller maintenant avec The National. Reviens-en. En The Nationals, l'album Sleep Well Beast, 7e album. De groupe qui vient de où, ça, mon cher Lacro?
Il vient de Cincinnati, je pense. En tout cas, il vient des États-Unis.
Ça, c'est le choix de Lacro. Qu'est-ce que t'en penses?
Le choix de Lacro? Moi, je choisis au hasard, comme que tu m'as fait. Ben, j'ai dit oui aussi.
Ah oui? D'accord. Oui. Ouais, c'est en fond.
7e album. Je pourrais dire c'est l'électro-rock.
Non, tu pourrais pas dire
ça. Il est électro. Il y a plein de sonorités électroniques en arrière, je m'excuse. Puis c'est grâce aux frères Dessner, ces deux frères, ils ont rajouté les claviers, ils sont très présents, et ça fait le son électro, je trouve.
C'est pas le son électro, on dit pas ça, c'est un ben indie rock, là, ouais, genre.
Il y a la voix de David Gahan de Depeche Mode ou de Leonard Cohen sur la barre, je trouve.
Regarde, il y a des moments où je trouve ma job de chroniqueur difficile, et puis c'est quand on m'impose un disque tel que The National, parce que je trouve que c'est un ben qui est comme ultra fucking triste, puis ça pogne, hein, quand même, ce groupe-là, ça pogne au bout. Fait que j'ai fait OK, c'est cool, j'ai osé me mouiller, sacrément, après deux tunes, ils ont voulu me noyer. La tune Day I Die. OK? Ouais. The Day I Die. Where will I be?
Tu prends des médicaments, t'es correct? Mais ça a passé?
Moi, je dis non.
Non, OK.
Je dis non, parce que justement, c'est pas un bon électro, mais le...
Électro, c'est les sonorités électro.
Mais c'est dans les arrangements.
Oui, exactement.
Moi, c'est pour ça que je dis non, parce que les arrangements font qu'à un moment donné, ça dissonne avec la musique en dessous. Si vous faites des arrangements, c'est supposé d'arranger la musique, pas la détruire. On va y aller maintenant avec Death From Above, l'album Outrage Is Now. Ça, c'est un duo de Toronto,
ouais.
Avec Sébastien Gringer, Jesse F. Keeler. Il est comme arrivé, en tout cas, moi, je l'avais pas vu. Il est comme arrivé de même, je savais même pas qu'il préparait, whatever.
Ah non?
Non.
Puis je l'ai choisi encore parce qu'on a choisi Mastercraft aussi, puis on a choisi Death From The Above le 2 ans. On peut-tu choisir un autre band?
Vous voyez ici le mur, hein? Death From Above, hein, régnait dans le power rock, vraiment catchy, punk, mais un petit peu dance punk aussi. C'est comme un relent des restants de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Ils ont eu de sérieux compétiteurs il n'y a pas si longtemps avec un band, je pense qu'ils sont anglais, ça se peut que je me trompe, qui s'appelait Royal Blood.
Oui.
OK.
Ouais, qui sont
qui ont sorti aussi. Eux autres aussi un album il n'y a pas si longtemps.
Ils sont
que,
deux.
Qui sont deux, c'est ouais. ça. Là, c'est de la ouais. compétition de duo rock.
Ouais.
Et puis, ben, n'ayez crainte, mes chers Dead From Above, si jamais vous aviez eu peur, je ne penserais pas, parce que les autres font pas mal ce qu'ils veulent. Cet album-là est catchy à l'os. Ils sont ouais. inspirés, ils sont revenus sur un rock pur et dur, mais mm-hmm. aussi catchy. Là, moi, je trouve que les bands sont capables de flirter avec la radio commerciale et l'underground, ouais. à peu près comme grosso modo, le single qu'on va écouter tantôt. Je trouve ça génial, je trouve ça, c'est comme t'es c'est vrai que ça a bonne mine.
Statue, c'est mon single. C'est une gâteau de statue, je sais pas si c'est ça, mais
c'est pas. Mais en tout cas, Jesse fait maintenant partie de mon panthéon de mes bassistes.
Ouais, ouais, il n'y a pas de bâtard dans ce band-là, c'est juste la bass en plus.
Ouais,
je
exactement. Exactement. Alors, mettons les tiens. Living Color! Living Color!
Eh oui, le râteau!
Alors, ce choix poche est une gracieuse de la firme Dick Lacroix, hein? 3 ans de loyaux services dans un choix d'album dont tout le monde se crisse. Vas-y, mon ami. Non, mais sérieux, y a-tu du monde qui se souvient de Living Color? Et si oui.
Non, mais j'ai été impressionné de l'album de Living Color.
Oui, vas-y.
J'ai été impressionné. Il y a encore le chanteur, Christy Dubois, il y en a toujours eu une. Le guitariste.
Toi aussi, t'es une Christy Dubois, mais je voudrais pas l'entendre.
J'ai mal à la gorge. Non, toi, c'est sûr que tu l'as pas aimé, c'est ça?
Ben,
moi j'ai pas été, on n'est pas trop perdu, on est encore dans le Living Color, puis je trouve qu'ils ont super bien travaillé, puis c'est encore ils, je veux dire,
oui, c'est bien
ça bûche, ça bûche. Moi je trouve ça bûche, puis ils ont fait une reprise de Ushatia de Notorious B.I.G. qui est pas pire réussi.
Ouais.
Celle de Marvin Gaye, Inner City Blues est un petit peu moins bien réussi.
Ouais.
Mais il y a encore sa voix. Ben moi, mon album surprise, parce que comme tu dis, Living Color, elle revient. Living Color, hein. Chris, je l'ai écouté, j'ai eu du fun.
Mais c'est vrai, c'est ça.
Il y a du soul, il y a
c'est de la musique de vieux routiers pour les vieux routiers. Puis là, quand je parle de vieux routiers, c'est ceux qui font, que ça fait longtemps qu'ils font leur job. Pas un vieux routier qui conduit un 500 pieds, parce que sinon, il prend le champ après 3 tunes. Ben, c'est quand même assez veg, merci. Bon, on va y aller maintenant avec The Roof,
l'album. Ah bon, encore la Ben qu'on va reparler. Tu sais, on change jamais de Ben, hein. The Roof l'année passée, le projet de Sony encore l'année passée. On peut-tu changer de Ben? On peut-tu?
Ouais, on peut changer. Regarde, on va parler de.
Non, vas-y.
On va parler de ton super groupe Mayday. Mayday! L'album Search Party! Ah, il a aimé ça, lui.
Ben oui, il a aimé ça.
Ok. Vas-y.
Ben, j'ai aimé ça. Il y a des moments que c'est ça commence les potes, mais ils m'ont toujours ramené parce que c'est des bons rappers.
Oui,
c'est des bons rappers, puis ils chantent aussi. Ils chantent juste. Les refrains sont soucieux de chants dans les refrains. Il y a un petit peu la folie de Kanye West.
Explique-moi comme du monde, je comprends rien.
Ben, je veux dire,
soucieux de quoi?
Ils sont soucieux de la qualité de leur refrain.
Ils sont soucieux?
Oui, je trouve.
Ils sont soucieux parce que le but de l'exercice, c'est qu'ils soient tous pareils?
Tout pareil.
Ils chantent tout le temps pareil. Tout le temps. Tout le temps.
La musique, c'est des musiciens, c'est un peu comme un band comme The Roots, il y a un guitariste.
Ah, c'est sur le label Strange Music de Tech N9ne.
Exact.
Qui est supposé lui signer de la qualité.
Ah, ok. Fait que t'as pas aimé ça, c'est ça.
Ben, c'est qu'à un moment donné, ça joue dans le bar, parce qu'il y a beaucoup de tunes, hein.
Il y en a trop, c'est 17.
Puis à un moment donné, ça devient comme juste du bruit sonore.
Mm-hmm.
Puis ben, c'est pas supposé quand tu fais du hip-hop.
Ben, en tout cas, il y a un peu la folie de Kanye West là-dedans, il y a du chaos.
Il y a des bons élans, tu sais, mettons, pour ceux qui aiment chaos, ADC, Flowbots, mettons, tu sais, dans le genre de Flowbots, un peu, ce genre de... Bon, fait qu'on va finir avec le mien, tabarnak, bon. The Roof, Mountain Moves, OK? Oui, on en parle souvent, puis pourquoi pas, si ça vaut la peine. Moi, je dis oui, c'est un groupe de San Francisco, 14e album studio, je l'ai écouté cet après-midi avant de venir vous voir, puis c'est pas pourquoi je l'ai écouté cet après-midi, parce que je l'avais commandé en vinyle. Puis à cause de Sarah, salut Sarah, comment ça va? Je te suppose dans ma copie édition limitée bleue, je ne l'ai pas encore reçue.
Ça va
l'avoir lundi, genre, mais en tout cas. Mais je suis content parce que j'aime le disque. Mm. On pensait que The Roof nous arrivait cette fois-ci avec un album lounge, parce que les 3-4 premières tunes, Greg Sony, justement, j'aime ce drummer-là, tellement innovateur, dormait au gaz. J'ai l'impression qu'il dormait au gaz en début d'album. Il a commencé à se déniaiser avec Begin Countdown.
Oui, si.
Bon, tu l'écris toi aussi.
Oui.
Puis Chuck Ben, je sais pas si c'était l'anecdote suivante. C'est-tu pourquoi t'as commencé à se réveiller là?
Non.
Parce que Begin Countdown faisait partie de l'enregistrement de Magic qui est sorti 2 ans avant.
OK.
Celle qu'on a
parlé.
Plus hommage, mettons, au punk ou whatever, quoi.
Exact.
Après ça se réveille,
il y a
tout ça.
Mais il y a beaucoup d'invités là-dessus.
Oui.
Mais qui sert pas grand-chose. Ça fait grand-chose. comme Xenia Robinos, là, qui est une grande chanteuse jazz, elle fait juste la 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 la. La 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 la.
Ben oui,
la,
mais c'est pas
fait
grave.
Juste ça.
Puis, mais c'est pas grave.
Mais c'est comme nous autres, là, quand pour venir à l'émission, tu sais. Le monde, il se déplace, il faut qu'il nous aime en crise pour venir ici. Pareil comme les autres sur l'album, c'est la même affaire.
Parce qu'ils nous aiment pas, eux autres, check, Félix m'écoute même plus, puis.
Je vais prendre mon téléphone.
C'est une joke.
Bon, c'est
ça, exactement. Mais je trouvais qu'il y avait quand même un beau petit filon sur l'album. Ouais, Satomi. Ouais. Je trouvais qu'il y avait un beau filon de pop japonaise qui est un petit peu en tour de tout ça. Ben oui, Chris, j'ai le droit. Pardon. Et puis, ben, de toute façon, qu'il soit lounge ou plus soft, c'est effectivement l'album plus soft de The Roof, on peut le dire. Mm-hmm. Sauf que, encore une fois, moi, ce que j'aime de ce groupe-là, et ce que j'aime de la musique en général, c'est quand on me surprend. Et puis, The Roof, on réussit quand même à me surprendre en étant cette fois-ci plus soft.
Musicalement, moi, j'ai aucun problème. C'est la petite chanteuse là, qui chante en petit enfant.
Alors, mes chers amis, encore une fois, ça fait maintenant deux épisodes de suite. Oh non! Ça fait qu'on a plus les coulisses. Des pots de peinture. Alors, ça fait maintenant deux semaines qu'on réussit à tout prendre
la main.
Alors, nous, on prend une pause de 5 minutes et puis tantôt, on vient jaser avec les gars, grosso modo, pour en trouver l'intervalle. Puis, c'est diffusé une semaine après. Donc, salut tout le monde, merci de nous suivre, ciao,
c'est bye. Mais je déteste la business où la plupart ont deux visages au départ. La musique, c'est de l'art.